Bonjour, nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et ce matin, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Marion Grébert, qui a publié deux livres à l'Atelier Contemporain. Et nous allons parler de ces deux livres. Nous allons commencer par le premier qui est paru récemment, qui s'appelle « Pourquoi les fleurs, un autre voyage en Italie ?» Et donc c'est un livre qui comporte des reproductions. C'est un livre très soigné. Et la première reproduction, c'est des fleurs dans une peinture de Fra Angelico. Et la deuxième, c'est une photo de Pier Paolo Pasolini avec sa mère dans leur maison de Rome devant des roses. Et donc, bonjour Marion. Et est-ce que vous voulez nous présenter la problématique générale de Pourquoi les fleurs ?
Bonjour Yves, merci beaucoup de me recevoir. Pourquoi les fleurs ? Un autre voyage en Italie. C'est un livre que j'ai écrit depuis l'Italie, en grande part. J'ai passé un an en Italie, entre Rome et différents endroits pour l'écrire, et puis ensuite j'ai poursuivi l'écriture en rentrant en France. C'est un livre qui s'appelle donc « Pourquoi les fleurs ?» mais sans point d'interrogation, et qui est parti notamment d'un questionnement posé par Roland Barthes dans un cours au Collège de France en 76-77. C'est un cours qui s'appelle « Comment vivre ensemble ?» et il y a un bref moment où il parle des fleurs. Et il dit qu'il faudrait ouvrir un dossier des fleurs, parce que cela semble aller de soi, les fleurs dans les vases, sur les tables, en bouquets, et que c'est justement quand les choses semblent aller de soi, quand elles semblent être évidentes, qu'elles ne vont pas de soi du tout, et qu'il faut se demander pourquoi est-ce qu'on vit avec cette fausse évidence-là. Et lui, il pose cette question avec un point d'interrogation, pourquoi des fleurs ? Et je suis partie de cette chose-là, en me demandant toutes ces fleurs que je vois dans la peinture depuis longtemps, et notamment dans la peinture italienne, dans la peinture de la pré-Renaissance, donc autour du XIIIe, XIVe siècle. Pourquoi est-ce que l'histoire de l'art n'en parle jamais ? Elles sont toutes petites dans les tableaux. On les voit, on ne les voit pas, on ne les commente pas. L'histoire de l'art les commente très peu. Puis on retrouve des fleurs partout dans la poésie, y compris au XXe siècle chez Pasolini, qui est une des figures centrales du livre. Et donc il y avait vraiment cette volonté de me demander mais pourquoi ces fleurs et pourquoi les fleurs de manière générale ? Pourquoi est-ce que nous avons tellement besoin dans les arts visuels, dans la poésie, qu'elles soient sans arrêt présentes ? Et on peut parcourir des temps très différents de l'histoire et où elles sont là.
Et donc on passe de ville en ville, je trouve qu'on sent très bien l'Italie dans votre livre. J'ai retrouvé mes souvenirs de mes 17 ans quand j'ai découvert l'Italie et c'était tellement extraordinaire. Je sais pas, arriver à Lucques et voir une église en marbre blanc, moi je viens du Nord, et donc et puis tous les gens, les mœurs, Rome, la Piazza d'Espagne, enfin vous étiez à la Villa Médicis, vous étiez au centre de Rome.
Oui.
Et donc on sent très bien, et vous passez de ville en ville, donc vous commencez avec Rome, et ensuite vous allez sur les collines de Rome, de Toscane et d'Ombrie. Là.
Oui, il y a tout un voyage. En fait, Rome est vraiment le point de départ, parce que c'est là que j'habitais pendant un an, mais c'est le point de départ vers plein d'autres territoires et d'autres paysages de l'Italie. Assise a aussi joué un très grand rôle dans le Nord, en Ombrie. Et en fait, la particularité de l'Italie, quand on veut aller y voir les œuvres, c'est qu'elle ne se trouve pas comme à Paris, où la majorité des œuvres en France se trouvent dans les grands musées parisiens. Alors bien sûr, il y a heureusement d'autres musées ailleurs en France, mais disons qu'on va surtout voir les œuvres dans les musées et qu'on va beaucoup les voir à Paris. En Italie, on peut continuer à voir les œuvres là où elles ont été faites, dans les fresques notamment, dans les églises, et elles sont disséminées dans toute l'Italie. Et ce que vous décrivez là, de votre découverte de l'Italie, c'est vrai que ça se renouvelle sans arrêt. Quand on voyage, on arrive dans une ville, on entre dans une église, et puis il y a une œuvre cachée là, plus ou moins connue, qui attire plus ou moins de monde. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Par exemple, à Assise, en Ombrie, donc, où se trouve la basilique San Francesco, qui a été construite en l'honneur de saint François d'Assise au XIIIe siècle. Le peintre Giotto y a peint des fresques à la fin du XIIIe et au début du XIVe, qui sont des fresques qui sont des fresques majeures dans l'histoire de l'art. Et si on y va à l'automne ou à l'hiver, on peut être seul devant ces fresques. Ça a été un émerveillement en Italie, la possibilité d'être seul devant des très grandes œuvres, qui est une expérience qu'on ne fait jamais en France. Et ça change vraiment l'écriture.
Je me souviens même à Florence, mais je suis très vieux, et c'était possible, et la personnalité de la ville, et aussi les forts contrastes. Quand on habite à Rome et qu'on descend à Naples, par exemple, on change de civilisation.
Complètement.
On est dans un autre monde.
Oui, oui. Et puis, l'une des choses aussi nouvelles aujourd'hui, c'est que toutes ces villes-là ont des rapports différents au tourisme de masse. À Rome, ça a été difficile à vivre au quotidien. Il y a une foule presque permanente, alors surtout dans le centre, à côté de la Villa Médicis et de la Piazza di Spagna. Malgré tout, là aussi, on peut réussir à voir des caravages dans des églises si on y va tôt le matin à l'ouverture avec personne devant. Mais il y a des tas d'autres endroits où on arrive encore à être sans tourisme hors saison. Et en effet, d'une ville à l'autre, on a l'impression d'arriver dans un territoire complètement nouveau. Chaque ville, chaque région d'Italie a une identité très très différente, et ça se ressent aussi dans les œuvres qu'on y trouve et dans le rapport qu'on peut entretenir avec ces œuvres, parce que les atmosphères sont singulières à chaque fois.
J'ai eu une formation en histoire de l'art, et donc ma génération, c'était la fin d'une idéologie marxisante, comme ça, et on faisait de l'histoire sociale de l'art. Et donc le type qui a fondé l'histoire sociale de l'art, c'est un Hongrois qui s'appelle Frédéric Antal, et il travaille sur le XIIIe et le XIVe siècle florentin. Et je vois là une reproduction de Giotto dans votre livre avec... Et pour nous, Giotto était un usurier. C'est quelqu'un qui louait des métiers à tisser et qui avait des revenus en dehors de la pratique de l'art qui lui permettaient d'être assez souverain dans l'exercice de son art. Donc on avait tout le temps des points de vue très originaux comme ça. Donc ce que fait Antal, il découpe les classes sociales en tranches, un petit peu comme Bourdieu, et 50 ans avant, au moins 50 ans avant. Et donc, chaque tranche va avoir des achats selon son goût. On a déjà cette idée que les classes moyennes ont un goût chargé, qu'il leur faut beaucoup de choses, et que les classes supérieures ont... C'est Giotto, quoi, en plus. Et la reproduction que vous donnez de Giotto est vraiment étonnante. Mais c'est ça, donc, nous, on a appris à voir l'étoile autrement, et donc, c'était on les re-regardait. On renouvelait l'approche et on les voyait, en fait. C'est ça, c'est le truc de Barthes, on les voyait. Et là, il y a une main qui tient un vase avec des fleurs dedans. Et c'est pas du tout l'idée qu'on a de Giotto, et c'est extraordinaire. Mais on retrouve Pasolini, on retrouve le Decameron. Encore que je pense pas qu'il y ait un bouquet de fleurs, ça sera à vérifier qu'il y a un bouquet.
Il y a beaucoup de fleurs, si.
Mais pas en bouquet, dans
pas
un vase.
En bouquet. Dans le Decameron, il me semble qu'elles apparaissent essentiellement en petites fleurs coupées uniques.
Je peux imaginer des guirlandes, je peux imaginer des décorations.
Je me souviens essentiellement de fleurs uniques offertes ou sur les tables. Mais là, ce dont vous parlez, c'est très important sur la question des rapports de classe, c'est quand même quelque chose qui est très présent dans le livre, malgré le fait que j'aborde des périodes très très différentes les unes des autres. Je vais jusqu'au XXe siècle, et c'était très important pour moi de montrer que dans toute l'histoire de l'art, les fleurs sont porteuses de questions de rapports de classe, y compris à la période où peint Giotto. Parce qu'il peint en hommage à François d'Assise. À Assise, il va notamment peindre des scènes de la vie de Saint-François. Et pour François d'Assise, il y a eu vraiment un enjeu, lui, dans son engagement et dans la création de son ordre des frères mineurs en 1206, de se détacher de la classe privilégiée du père. Son père était marchand de tissus, il était très riche dans la ville d'Assise, et François aurait dû devenir un riche marchand de tissus. Il a choisi la pauvreté, Et quand Giotto peint les scènes de la vie de Saint-François et qu'il y peint des fleurs, les fleurs sont vraiment là comme des figures de pauvreté choisies. Et elles portent, elles aussi, des rapports de classe à l'intérieur de la figuration. Elles sont extrêmement discrètes, on les voit à peine. Mais de Giotto à Pasolini, et avec Pasolini évidemment, il était vraiment très important pour moi de montrer que aussi bien des sensibilités de gauche que des sensibilités extrémistes de droite, fascistes, totalitaires au XXe s'en emparent et en font des choses extrêmement différentes. Chez Pasolini, quand il parle des fleurs dans ses poèmes, quand il met en scène des fleurs dans ses films, il est vraiment question de s'approprier là cette pauvreté florale contre la violence des fleurs qu'ont pu exploiter les régimes fascistes qu'il a connus ou dont il hérite en Italie, en Allemagne notamment, évidemment.
C'est un élève de Roberto Longhi, et mon professeur d'histoire de l'art s'appelait Enrico Castelnovo, c'était aussi un élève de Roberto Longhi, donc on est dans une filiation de ce type-là, c'est amusant, oui. Et on a... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, on a cette continuité... je sais ce que je voulais dire. On vient de perdre un pape qui s'appelle François.
Oui.
Et donc ça fait... la papauté est à la mode. Là. Et donc on va se retrouver... c'est un cercle. L'éternel retour de Nietzsche. Là. Ouais. On est dans cette problématique et c'est plus que jamais nécessaire d'époque.
Et oui, mais d'ailleurs, François a pris ce nom parce que...
Tout à fait en référence,
en référence sur les... Et c'était un engagement pour dire que les rapports de classe concernent aussi l'Église. Quoi. Ça, c'était présent chez Saint-François d'Assise et chez Giotto, en fait. Et à travers les fleurs, c'est quand on regarde cette petitesse des fleurs dans les tableaux et le fait qu'elles soient là, malgré le fait que quand on se trouve en bas des fresques, c'est à peine si on les voit. C'est très important, cette chose-là, qu'il existe cette chose presque insignifiante dans une œuvre qui n'est presque pas remarquable, mais il compte et il importe que ce soit là, et ça signifie quelque chose que ce soit là, malgré la pauvreté de cette toute petite chose.
Oui, il y a une reproduction de Léonard de Vinci, par exemple.
Oui, il est...
C'est très, très discret. Hein. La
Vierge au rocher. Je parle en effet d'une fleur qui est cachée dans ce tableau, la Vierge au rocher, qui représente donc une vierge. Et derrière elle, on voit un rocher. Et dans l'ombre du rocher, il y a un œillet rouge qui est presque invisible, hein, parce que le pigment de rouge a été très en surface. On le voit à peine. Et pourtant, mon idée, c'est que le centre du tableau se trouve vraiment dans cette fleur-là, modeste, quasiment invisible, et pourtant qui contient toute la force expressive de cette œuvre.
Donc effectivement, Assise comme chapitre. Et le Giotto, là, une espèce de plante, c'est Saint-François recevant les stigmates.
Oui.
Et la plante a cet aspect un peu sauvage, comme ça.
Oui, il y a des fleurs sauvages, en fait, et notamment dans cette scène, là, il y a cette fleur sauvage que j'ai mis en exergue d'un chapitre, parce que certains chapitres s'ouvrent, comme vous le décrivez, sur des tout petits détails d'œuvres et des petits détails floraux. Et il y a ce récit en partie biographique, en partie légendaire, de la rencontre de Giotto avec Cimabue, qui sera son maître. C'est Vasari qui raconte cet épisode-là. Cimabue est déjà un grand peintre en Italie, et Vasari raconte que Cimabue rencontre Giotto quand il est encore un tout petit garçon de 10 ans. Il est en train de garder le troupeau au milieu de la campagne. Et je défends cette idée que chez Giotto, il y a une mémoire de cette vie rurale et paysanne-là, et qu'il fait entrer dans la peinture le hors-champ du travail paysan, du travail rural, du travail manuel. Et on pourrait penser que ces fleurs-là sont simplement des références à des herbiers qui reviennent à ce moment-là, des herbiers antiques qui reviennent à la mode au moment où Giotto peint, et les peintres peuvent les revoir. Il y a évidemment cette référence-là aux herbiers qui contiennent un savoir scientifique, mais il y a aussi chez Giotto le retour et le maintien d'une mémoire paysanne dans sa peinture.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et donc on va, donc je parlais de Florence, on considère que ces métiers à tisser, c'est fondre le capitalisme, c'est-à-dire qu'ils créent un surplus de marchandises, qui va pouvoir se vendre et s'exporter. Et Horkheimer et Adorno vont greffer là-dessus la notion d'assurance, parce que ces textiles vont partir en bateau, et on va assurer les bateaux. Et donc là, je vois justement, on a des fragments d'étoffe très tôt avec des motifs florals.
Oui, oui.
C'est une des choses qui...
C'est un des chapitres du livre, en fait, qui s'intitule « Luc ». Et Luc est en fait une ville depuis laquelle se crée la soie et le velours. Au 14e, 15e, j'ai peur de me tromper là tout d'un coup sur les dates. Et la fabrication de tissus crée énormément de richesses en Italie. Alors dans certaines villes qui ont leur propre soierie, telle que Luc, c'est vraiment le point de naissance de la soie et du velours. Et je parle du fait que ces soieries-là et ces tissus-là arrivent aussi dans la peinture au 15e, et je compare une vierge de Giotto qui porte sur elle un voile noir au 14e avec d'autres vierges qu'on voit ensuite un peu plus tard, qui sont censées être des vierges d'humilité, qu'on appelle des vierges d'humilité. Elles ne sont plus assises sur un trône, elles sont assises à même le sol, et en même temps, elles se mettent à porter de très riches tissus, qui étaient ceux que portaient les commanditaires, les marchands et les figures les plus aisées et les plus riches des sociétés italiennes. Et il y a cette contradiction étrange de vouloir représenter la Vierge dans une position d'humilité et de modestie, mais portant les attributs des plus riches de ce monde. Et ça, je trouve
c'est une contradiction dialectique, j'espère.
Ouais, ouais.
Et donc, on a une image, on peut faire image facilement avec le printemps de Botticelli.
Oui.
Tout le monde voit la robe.
Et la robe qui est... Alors, c'est très étonnant, parce que le printemps de Botticelli contient toutes les fleurs qui viennent avant lui dans la peinture italienne, parce que ça contient à la fois les fleurs sauvages, les fleurs des champs, et ça contient aussi nouvelle fabrication de tissus, parce que Flore porte une robe avec un tissu floral extrêmement travaillé.
Une transparence.
Transparente. Et avec cette étrangeté là aussi, qu'on ne sait pas exactement si ces fleurs sur sa robe sont brodées ou si ce sont des fleurs sauvages qui apparaissent directement sur le tissu. Parce que par endroits, si on regarde de près, les racines des fleurs dépassent un peu du tissu de la robe, comme si elles avaient emporté avec elles un peu de la terre.
C'est le printemps, oui, c'est le flux de vie qui surgit et qui emporte tout sur son passage.
Et un flux de vie qui vient à la fois de la nature et à la fois de la nature et de l'histoire de l'art, hein, c'est ça. C'est ça qui est particulièrement remarquable dans le printemps de Botticelli.
Et donc là, je vois une allusion à Emily Dickinson.
Oui.
Donc,
on va certainement en reparler aussi après, quand on parlera de Traverser l'invisible, elle y est aussi présente. Emily Dickinson est une figure qui m'accompagne constamment.
Donc c'est une poétesse.
C'est une poétesse américaine, elle est née dans les années 1830. Aux États-Unis, et elle a consacré sa vie à la poésie. À partir de l'âge de 30 ans, elle a décidé...
En sortant très peu, c'est ça.
Voilà, elle a décidé à partir
de...
Une vie monacale. Elle est très peu sortie de la maison familiale. Elle a eu une vie sociale extrêmement réduite. Mais elle passait son temps à écrire des poèmes et des lettres pour d'autres. C'est-à-dire que en étant dans la solitude de la maison, elle a construit sa vie autour de l'adresse de sa poésie. Et elle était notamment connue dans sa ville pour avoir une serre de fleurs. et elle passait du temps dans son jardin et dans cette serre. Et je compare l'herbier qu'elle a fait, qui est sublime, qu'on peut voir maintenant. En plus, on a la chance de pouvoir en admirer une version numérisée très facilement. Elle a constitué un herbier magnifique et que je compare à ces fragments d'enveloppe que l'on a maintenant, sur lesquels elle écrivait des poèmes. Ces fragments d'enveloppe sur lesquels on lit ses poèmes et ses pages d'herbier me semblent semblables dans cette manière de tirer de son expérience du monde des fragments de poèmes et des fragments de beauté qu'elle conserve avec le crayon ou avec, entre les pages de l'herbier, en faisant sécher les fleurs.
D'un seul coup, je vois surgir des serres avec des orchidées dedans, ouais. Comme thème littéraire. Je sais pas, presque une spécificité anglaise. Ouais. Je vois beaucoup de littérature autour de ça. Donc, donc Pasolini, est-ce que... donc vous pensez à sa poésie. Donc
là, il fait beaucoup à sa poésie. C'est vrai que le livre porte plus sur sa poésie
écrit dans un parler dialectal.
Oui, je parle notamment en effet de ses poésies à Casarsa, qui sont des poésies de jeunesse qu'il a tenu à écrire dans un dialecte du Frioul, le Frioul qui est une région au nord de l'Italie où il a passé ses vacances quand il était enfant et adolescent et où il a déménagé avec sa mère et son frère ensuite un peu plus tard. C'est le territoire de l'ancrage pour lui où il est devenu poète, en fait. C'est vraiment à Casarsa qu'il est devenu poète, et dans cette langue frioulane. Et ça a été un des points de départ du livre pour moi, en relisant les poésies à Casarsa, de m'apercevoir que les poèmes étaient constellés de fleurs sauvages, et notamment constellés de violettes. Et il va reprendre ces poésies-là un peu plus tard, en changeant son rapport au dialecte et en le déformant, et en déformant aussi les paysages floraux, pour montrer ce qui avait changé en lui, parce qu'il a été obligé de quitter le Frioul pour des raisons politiques, parce qu'il a été exclu de sa cellule communiste, et son frère a été aussi, qui était
assassiné.
Et il a été obligé de venir s'installer à Rome, et vous avez parlé d'une des photographies qui ouvre le livre, qui est une photographie de Pasolini et de sa mère, Susanna Colucci, dans le jardin de leur maison romaine, et entre deux, il y a un rosier, et il y avait une vraie angoisse pour Pasolini de ne pas pouvoir offrir à sa mère un logement à Rome où elle pourrait avoir son jardin de fleurs. Et il a fini par trouver cette maison. Et là aussi, encore une contradiction, parce que c'est étonnant à quel point les fleurs sont porteuses de contradictions politiques. Cette maison, il l'a trouvée dans le quartier de Léour, qui était un quartier d'architecture fasciste en l'honneur de Mussolini.
Néoclassique, là.
Oui, exactement. C'est étonnant qu'il ait réussi à retrouver pour sa mère le paradis perdu des fleurs du nord de l'Italie, dans ce quartier à l'identité fasciste.
Il y a une reproduction magnifique, nymphe et souterraine de la villa d'Ilivia, vers moins 40 avant Jésus-Christ.
Oui, là c'est une des premières œuvres que je suis allée voir à Rome. Là, il s'agit donc d'une fresque, très très grande fresque, qui se trouvait au nord de Rome, dans la villa de Livy, qu'on appelle donc la fresque de la villa di Livia, qui date donc du 1er siècle avant notre ère. Livy était une femme, était l'épouse d'Auguste, le premier empereur de Rome. Et dans sa maison, au nord de la capitale, elle avait fait peindre en hypogée... pas en hypogée, parce que les hypogées sont des monuments funéraires. Elle avait fait peindre en souterrain de sa maison, dans une pièce qui était à demi enterrée, cette très très grande fresque, grandeur nature, d'un jardin au printemps. Mais c'est une fiction en quelque sorte de jardin au printemps, puisque toutes les fleurs sont en floraison en même temps. Et je parle du fait qu'on pourrait vouloir regarder depuis notre point de vue, cette fresque comme un paradis perdu avec la mémoire du paradis d'Adam et Ève. Mais évidemment, on se trouve avant cette période-là.
Ah, oui, on est 4 siècles avant.
Et en réalité, Ce qui est surprenant, je parle d'un détail dans cette fresque, qu'on pourrait croire être un jardin abandonné à l'état sauvage. Et en fait, on voit une cage à oiseaux qui se trouve dans ce paysage-là. Et en réalité, il n'y a pas du tout d'idéal de la nature abandonnée à elle-même. C'est plutôt un idéal de jardin...
Très bien entretenu, oui.
Très bien entretenu par un jardinier. Et Livy elle-même avait ses carrés de plantes médicinales. Elle avait aussi des lauriers qui étaient les lauriers qu'on utilisait à Rome pour les couronnes des vainqueurs de victoires militaires ou sportives. Et donc, il y a un rapport vraiment tout terrestre et manuel avec vraiment l'idée d'un savoir-faire derrière cette fresque-là qu'on peut voir maintenant au Palazzo Massimo à Rome, juste à côté de la gare de Termini, qui a été transportée là quasiment intacte. Ça, c'est exceptionnel de pouvoir la voir encore aujourd'hui dans son état dans lequel elle était... premier siècle avant notre ère.
Et donc, toujours dans cette série de reproductions, on a un Karl Blotzfeldt qui fait en 1928 des photos de fleurs qui sont assez impressionnantes, qui ont quelque chose d'organique, comme ça, très, très contrasté, c'est très bactériologique. Ça.
Oui, bah Karl Blotzfeldt arrive à photographier des spécimens de fleurs et de plantes agrandies à 40 ou 45 fois, et à nous faire voir le plus petit et le plus minuscule de ces fleurs. C'est une série de photographies qui va fasciner le philosophe Walter Benjamin, qui va écrire dessus, et qui, dans son œuvre, quand il parle aussi bien de photographie que d'art, que plus largement d'histoire et de politique, c'est très important pour Benjamin d'avoir sans arrêt à l'esprit ce qui existe de plus petit dans notre expérience des choses, de plus imperceptible, de plus microscopique.
On retrouve la phrase de Barthes, en fait.
Oui, en quelque sorte.
Enfin, d'une façon plus analytique.
Oui. Cette façon dont on peut aller regarder le plus grand de l'histoire et des événements dans des miniatures sensibles, avec l'importance pour lui d'un rapport sensible aux choses. Je crois que le livre parle beaucoup de ça, c'est qu'est-ce qu'on choisit de regarder, qu'est-ce qu'on choisit de remarquer. Le livre parle beaucoup de tout petits détails floraux ou de choses que l'on voit de très près, comme dans cette photographie de Blossfeld. C'est déterminant, ça, je crois, aujourd'hui, peut-être aussi particulièrement au temps des écrans. Comment est-ce qu'on choisit d'orienter son regard? Qu'est-ce qu'on choisit de regarder? Qu'est-ce qu'on choisit de remarquer qui pourtant ne semble pas du tout remarquable.
Oui, il y a une espèce d'apologie de la modestie, mais de la vie, en fait, contre le spectaculaire, contre ce qui est au centre.
Oui, c'est ça.
Et donc, il y a Discoride de Vienne, début du VIe siècle.
Oui, là, ce sont des planches d'un herbier antique, et dont je parlais, que j'évoquais un peu tout à l'heure à propos de Giotto. Et c'est un herbier qui a été à nouveau reproduit à partir de l'école de Salerne et à partir du XIIe, XIIIe siècle. En fait, cet herbier antique-là se met à circuler à nouveau. Il y a un intérêt très grand en Italie, mais aussi ailleurs, en Orient, pour ces herbiers-là. Il y a d'ailleurs une circulation qui se passe entre l'Italie et l'Orient, avec les herbiers, avec les tissus, avec...
C'est évident, oui.
Une circulation des
imaginaires. On pense tout de suite à l'Orient dès qu'on a une scansion, un rythme.
Oui.
On pense à Byzance, enfin, ça...
Oui.
C'est tout à fait logique. Je regarde le nombre de... Elles sont bien, l'herbier d'Emilie Dickinson.
Oui,
je regarde le nombre de reproductions qu'il y a, là, je suis à la figure 112.
Oui, il y a une centaine de reproductions à la fin du livre. Il y en a à l'intérieur, il y en a en début de chapitre et puis il y en a aussi dans le texte.
Donc, nous venons de parler de « Pourquoi des fleurs » de Marion Gréber, un livre richement illustré. Et maintenant, nous allons écouter un petit morceau de musique.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? The girls have picked them, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? They've taken husbands, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? They're all in uniform. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn?
Nous allons parler d'un deuxième livre de Marion Grébert paru aussi à l'Atelier Contemporain, Traverser l'invisible, énigme figurative de Francesca Woodman et Viviane Maier. De quoi s'agit-il ?
Alors, c'est un livre très différent de Pourquoi les fleurs, et en même temps, il y a des points communs, on pourra peut-être en parler ou non, on verra si ça se présente. C'est un livre qui parle de photographie, c'est un essai de photographie qui parle particulièrement de l'autoportrait photographique féminin depuis le 19e siècle, c'est-à-dire depuis les années 1850, et qui se concentre sur deux figures d'artistes, photographes du 20e siècle que sont Francesca Woodman et Viviane Maier. Je vais les présenter toutes les deux succinctement avant de parler des hypothèses plus larges du livre sur l'autoportrait photographique féminin. Francesca Woodman est née en 1958. Elle se suicide en 1980 à l'âge de 22 ans. Et Viviane Maier, elle naît en 1926 et décède en 2009, donc très récemment. Francesca Woodman commence à se photographier à l'âge de 13 ans et elle ne cesse pas de se photographier jusqu'à sa mort. Elle appartient à une famille d'artistes. Ses parents sont artistes, son père est peintre, sa mère est céramiste, son frère est maintenant vidéaste. C'est très différent pour Viviane Maier qui, elle, vient d'un milieu très modeste dans lequel il n'y a pas de culture artistique. Et elle commence à se photographier autour de l'âge de 30 ans. Ses parents sont morts, elle fait un voyage en France parce qu'elle a des origines françaises et c'est là qu'elle va commencer à prendre des photographies. La différence avec Francesca Woodman, c'est que Viviane Maier, elle, va prendre aussi beaucoup de photographies des autres et des lieux. Et les autoportraits apparaissent dans son œuvre de manière non exclusive. Et c'est ce qui les distingue.
Elle est aussi pas artiste, et on va trouver beaucoup de pellicules non développées à sa mort.
Oui, il y a une particularité biographique qui a fasciné beaucoup, et c'est pour ça qu'elle a été si commentée, c'est que Viviane Maier a fait des photographies de manière vraiment compulsive, des centaines de milliers de photographies, et ces photographies, pour la majorité d'entre elles, n'ont pas été développées, c'est-à-dire qu'elle a pris ces photographies et conservé les bobines, mais n'avait pas les moyens financiers de les développer, ou peut-être que ça n'était pas son intérêt, finalement, de voir ce qu'il y avait sur ces images. Et après sa mort, enfin, à vrai dire, avant sa mort, elle est dans un état de très grande pauvreté, et elle doit être envoyée à l'hôpital, elle n'a plus d'argent pour payer les frais d'hôpitaux. Il faut qu'elle vende aux enchères le contenu de petits garages de stockage qu'elle louait et vont commencer à être disséminés à Chicago ses affaires et ses bobines, ses négatifs non développés qui vont être achetés par un jeune homme qui ne sait pas du tout à quoi il a affaire, qui travaille sur les archives de Chicago et qui est toujours intéressé à trouver des vieilles photographies. Et en fait, il découvre ces centaines, ces milliers de bobines non développées qui contiennent des photographies qu'on tient maintenant pour parmi les plus importantes de l'histoire de la photographie d'après-guerre au XXe siècle aux États-Unis. Et en effet, à la différence de Francesca Woodman, qui est une étudiante en histoire de l'art, Viviane Mayer, elle a une profession et elle est nourrice, elle garde des enfants et elle va donc avoir très rarement une maison qui lui appartient. Elle vit chez les autres et elle se photographie donc dans ces lieux qui ne sont pas les siens, dans ces salles de bain dans lesquelles elle vit et là où elle garde les enfants, dans les rues. Et elle va photographier les enfants qu'elle garde, elle va photographier les passants qu'elle croise quand elle promène les enfants.
Il y a tout un jeu avec les miroirs, il y a une vraie... C'est marrant qu'elle ne les voit pas parce qu'il y a une vraie réflexion sur la perspective, sur la façon d'emboîter une image dans l'autre,
oui.
Toutes les possibilités qu'on peut avoir. Si elle voit son reflet dans une vitrine, elle photographie et souvent, de temps en temps, le motif, ce n'est pas elle.
Exactement. Elle est très souvent comme ça, donc elle se prend dans des reflets, comme vous le dites, dans des miroirs, dans des vitrines. Donc quand elle se prend en photo dans des reflets, très souvent on voit les personnes qui se trouvent derrière. Et donc elle se photographie à la fois elle et les autres. Elle photographie à la fois son reflet et puis ceux qui apparaissent derrière en arrière-plan. Puis quand elle se photographie dans les miroirs, c'est souvent au milieu de bric-à-brac, de vitrines, de brocanteurs. Il arrive même parfois que ce soit à peine si on devine en fait qu'elle se trouve dans l'image, on finit par apercevoir son visage qui est plus brillant et plus lumineux que le reste. Mais elle est perdue au milieu de chapeaux, de vieilles fourrures, de vieux cadres, de vieilles photographies. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus fort chez elle, en effet, par rapport à chez Francesca Woodman, où il y a plutôt souvent un aplat. Francesca Woodman se photographie souvent devant des murs, tandis qu'avec Viviane Mayer, il y a vraiment un emboîtement des plans, et elle se prend comme ça dans une réalité qui est multidimensionnelle, et dont elle n'est qu'un détail parmi d'autres.
Il y a aussi un rapport dialectique, m'a-t-il semblé, entre les deux, entre la pudeur et l'impudeur.
Oui.
Et qui est vraiment très marqué, qui est quasiment par moments caricatural.
Oui, qui est très fort chez elles deux, et qui se matérialise de manière très différente. Parce que Francesca Woodman se photographie principalement nue, mais très souvent, la plupart du temps en fait, en se dissimulant, en se cachant, soit derrière des objets, derrière des pans de papier peint, derrière des miroirs. Elle a plutôt tendance à se faire disparaître derrière les miroirs qu'à se montrer dedans. Elle travaille aussi beaucoup avec le flou de mouvement, donc qui fait qu'elle est très peu visible dans son détail sur les images. Et Viviane Mayer, en revanche, la chose notable, c'est qu'elle n'a pas fait, vraisemblablement, parce que j'imagine qu'on n'a pas tout vu de ses photographies, mais vraisemblablement, il n'y a pas d'autoportrait de nu chez elle. Ce qui est très rare quand on regarde toute l'histoire des autoportraits photographiques féminins depuis les années 1850. La plupart du temps, et il y a des occurrences de nudité chez les femmes qui se photographient, parce qu'elles se photographient aussi dans leur intimité. Mais chez Viviane Mayer, il n'y a pas ça. Et pourtant, elle se montre... dans bien des moments de sa vie, des moments très plats aussi, dans des chambres, dans des salles de bain, dans des moments où il se passe très peu de choses, mais où on sent qu'on arrive, nous, à accéder à son intimité, alors que dans sa vie quotidienne, on sait par exemple que là où elle habitait, dans les familles pour lesquelles elle travaillait, il était interdit aux familles et aux enfants d'entrer dans sa chambre. C'était très important pour elle d'avoir un verrou pour qu'on n'entre pas. Et alors, c'est une figure vraiment légendaire, donc cette question de la pudeur et de l'impudeur et de l'intimité, de la face publique, nous travaille quand on regarde son œuvre, mais il y a des témoignages de certains enfants qu'elle a gardés, qui parlent à l'âge adulte et qui ont pu pénétrer dans la chambre de Viviane Mayer et qui racontent cette chose très surprenante, que ses chambres ou sa chambre étaient encombrées de journaux. Elle conservait les journaux quotidiens et il y en avait des piles jusqu'au plafond et elle aménageait seulement un chemin pour aller du lit à la porte, mais que tout le reste en fait était intégralement encombré de journaux.
C'est ce syndrome-là, comment ils appellent ça
le... Alors, dans le livre, j'en parle, je parle de syllogomanie, qui se distingue du syndrome de Diogène, parce que dans le syndrome de Diogène, il y a vraiment aussi un rapport à la saleté. Voilà. Ce qui n'existe pas du tout chez elle.
Elle n'a pas l'air extrêmement propre, elle incarne une image de la gouvernante.
De la gouvernante extrêmement soignée, avec un style années 50, ce qu'elle semble avoir gardé toute sa vie.
Un style modeste affiché. Oui. Qui en devient arrogant dans sa modestie.
Oui.
Le chapeau.
Le chapeau, toujours présent. Oui. Et elle a conservé comme ça des vêtements complètement démodés jusqu'au bout, mais parce que de la même manière qu'elle conservait ses journaux, qu'elle conservait ses courriers administratifs, qu'elle conservait de manière compulsive ses photographies, elle conservait aussi ses vêtements. Il y a vraiment une vie qui s'est constituée comme une sorte de conservatoire d'images et d'instants non décisifs.
Et donc je pense à Diane Arbus ou à Nan Goldwyn ou des choses comme ça. Parce qu'il y a eu un peu de femmes cinéastes, mais quand même très peu par rapport au nombre de cinéastes. Est-ce qu'il y a une histoire de la photographie?
De femmes photographes?
Oui. Elles se sont emparées de cet outil plus facilement. Il y en a beaucoup et elles pourraient revenir comme on fait avec les femmes musiciennes ou les femmes dans tous les domaines.
C'est une chose...
Mais on a un corpus de femmes photographes
importants. Il y a vraiment un très grand corpus de femmes photographes. C'est une chose marquante de cette technique-là, de la photographie. Parce que la photographie est inventée entre les années 1820 et 1830, mais ça arrive très vite. Alors bien sûr dans un certain milieu social, c'était pour les femmes de la bourgeoisie européenne et américaine. Elles l'ont très vite pratiqué dans les années 1850. Mon hypothèse, c'est que d'abord ça demandait pas d'éducation technique aussi forte que la peinture, et puis aussi
pas de moyens comme le cinéma, pas de pouvoir.
Oui,
pas de rapport
exactement.
De pouvoir.
C'est quelque chose qu'on peut exercer seul, sans rapport à une institution. Et puis c'est un art, quand il arrive, c'est une technique qui n'a pas de passé masculin. Donc elles n'ont pas à devoir prendre la place des hommes, en quelque sorte. La place n'est prise par personne.
Mais c'est pas la peinture.
Oui, exactement. Donc dans la peinture, c'est vrai qu'on découvre, on redécouvre des œuvres de manière exceptionnelle de femmes. En revanche, chez les femmes,
on n'a pas besoin d'être filles de photographes, parce que les rares peintresses qu'on connaît sont des filles de peintres.
Oui, exactement, où elles sont dans des milieux de peintres.
Ouais, c'est ça.
Là, elles sont dans des milieux cultivés, les femmes photographes des années 1850, 1860, 70, où l'art est présent, mais elles peuvent s'approprier cette technique-là de manière très autonome et indépendante. Ça suppose une chose que je trouve très belle, c'est que ça suppose d'installer un laboratoire quand on est au 19e dans leur maison. Et donc l'espace domestique auquel elles sont assignées en tant que femmes devient un espace de travail et de création, parce qu'il faut qu'elles trouvent l'endroit où elles vont installer leur laboratoire. Et donc il y a vraiment une appropriation à la fois d'une technique artistique et d'une position d'artiste, et l'appropriation de l'atelier aussi. C'est vraiment le début, en quelque sorte, des ateliers féminins qui peuvent exister dans la maison et sans qu'il y ait une très grande difficulté matérielle à avoir comme ça son lieu à soi. Et avec cette chose particulière qu'il faut trouver l'endroit où prendre les photographies en pleine lumière, mais après il faut avoir aussi un lieu retiré, une chambre noire, dans laquelle la lumière du monde et de l'extérieur n'entre pas. Donc c'est aussi une manière d'apprivoiser une intimité créatrice et artistique pour elle, la photographie. Et donc l'histoire de la photographie de femme est longue, et l'histoire de l'autoportrait photographique aussi.
Et quand vous avez l'impulsion initiale de ce livre, vous travaillez à New York?
Alors, un peu plus tard.
Mais vous avez travaillé à New York.
Et j'ai travaillé...
Est-ce qu'il y a une dimension américaine de ces photos de femmes très spécifiques?
Oui, il y a quelque chose de très spécifique aux États-Unis, peut-être pas tant en matière d'autoportrait, mais en matière de pratique photographique. Parce que, à la différence de la photographie britannique, par exemple, de femmes qui est pratiquée plutôt à l'intérieur, aux États-Unis, en revanche, le rapport au territoire et aux grands espaces est tel que, dès le 19e siècle, il y a des femmes reporters photographes. Ça, c'est très impressionnant de voir des photographies de femmes avec tout leur équipement, qui est quand même un équipement très lourd.
On a beaucoup de sujets comme ça sur les reporters de guerre.
Oui, et oui. Et en fait, très vite, il y a des reporters femmes aux États-Unis pour la presse, puis reporters de guerre au début du 20e. Et c'est une manière d'aller vers le dehors, quoi. C'est une sorte de passeport pour le dehors et pour le vaste monde, l'appareil photographique pour elle.
On se délivre de son aliénation, ouais. On appartient
exactement
à l'histoire.
Ça, ça a été un moyen extraordinaire de dépassement des assignations en fait, auxquelles elles étaient soumises. Ça, c'était vraiment un grand outil de liberté et d'évasion pour les femmes. Ouais.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et quoi d'autre alors sur ce livre? Qu'est-ce qu'on manque d'important?
Je
vois Adrienne Piper.
Oui, Adrienne Piper, c'est...
Piper.
Et ça, c'est une série de photographies que j'ai vues quand je travaillais à New York, quand je travaillais au MoMA. J'ai pu voir cette série de photographies qui est réalisée par Adrienne Piper. Elle est toute jeune à ce moment-là, à l'été 1974. Elle est étudiante et elle a décidé de lire intégralement l'œuvre d'Emmanuel Kant. Pendant son été, de ne faire que ça, de lire cela, de faire du yoga et de se nourrir uniquement de jus.
Très difficile.
Et donc, c'est une espèce d'ascèse, limite, comme ça, et, où elle va documenter son amaigrissement. Et en même temps qu'elle la série s'appelle « Nourriture pour l'esprit », donc en même temps qu'elle nourrit son esprit, elle fait l'expérience d'un amaigrissement physique qu'elle va documenter par des autoportraits. Et donc, elle se prend en photographie nue ou en sous-vêtements devant son miroir. La particularité de ces tirages que j'ai pu voir, c'est qu'ils sont très sombres. Ce sont des photographies carrées. Et si elles sont trop exposées à la lumière, on voit simplement des carrés noirs. Et il faut réussir à porter le tirage et les tirages de telle façon qu'ils sont moins exposés à la lumière qui réfléchit en surface, pour réussir à faire apparaître l'image de la nudité d'Adrienne Piper. Et cette sortie des ombres, là, est un motif très important dans le livre. Je parle notamment du mythe d'Orphée et Eurydice, hein, au début du livre, qui est un mythe très très important dans le livre.
Et il y a des reproductions de Gaspard David Friedrich. C'est quoi le rapport avec le propos du livre?
Oui, le rapport, en fait, il est sur la... C'est un livre qui étudie des motifs romantiques. Et notamment, dans ces tableaux de Gaspard David Friedrich, très souvent, on voit une figure de dos, donc dans de la peinture, qui regarde des horizons au sommet d'une montagne, devant la mer, et qui regarde le lointain. Je parle beaucoup dans le livre de la question du rapport différencié entre hommes et femmes des lointains. C'est-à-dire qu'il y a cette figure romantique à l'époque du grand tour et du tourisme à la fin du 19e, cette figure masculine de l'homme qui part au loin dans un voyage initiatique pour réussir à se révéler à lui-même. Et le voyage initiatique est une chose dont les femmes sont privées. Et je compare notamment des tableaux de Gaspard David Friedrich, de ces hommes devant des grands horizons, avec un tableau sur le même modèle de sa femme, Caroline, dans l'atelier, qui se trouve à l'intérieur de l'atelier de Gaspard David Friedrich, à la fenêtre, et qui regarde au loin. Mais la différence avec les figures d'hommes qu'on voit dans ces tableaux, c'est que la figure de sa femme, Caroline, elle continue de se trouver à l'intérieur de la maison conjugale. Et toute la question est de savoir comment, notamment Francesca Woodman et Viviane Mayer, vont ouvrir le champ vers le dehors et vers des perspectives lointaines grâce à la photographie, y compris, comme dans le cas de Francesca Woodman, quand elle se photographie à l'intérieur de maisons ou d'usines abandonnées. Et il est question de savoir comment elles arrivent à inventer des lointains aussi pour elles-mêmes, et même en restant immobiles et sur place dans des espaces assignés.
Donc la photographie comme évasion.
Exactement.
Et pour changer de statut, de rapport au monde.
C'est ça, exactement. Je parle du désir d'évasion dans le livre.
Ah, c'est ça, oui.
Ouais. C'est une formule qui vient en fait d'un livre d'un philosophe américain qui s'appelle Yana King, et qui a étudié à la fin du 19e siècle une épidémie étonnante, ce qu'il appelle une maladie transitoire. À partir de 1887 jusqu'au début du 20e, il y a en France, en Italie et un peu ailleurs en Europe, mais pas du tout aux États-Unis pour le coup, il y a une épidémie de fugue chez les hommes. On retrouve des hommes à 60-70 km de chez eux, parfois beaucoup plus loin, parfois des centaines de kilomètres de chez eux, qui ne savent pas comment ils sont arrivés là, et qui ne se souviennent pas de toute la route qu'ils ont parcourue. Et en fait, la médecine psychiatrique va étudier leur cas, et sous hypnose, ce sont des hommes qui vont réussir à retrouver la mémoire de leur voyage. Et la chose étonnante, c'est que c'est une épidémie qui arrive là aussi en plein dans l'explosion du tourisme et de l'orientalisme aussi, de la volonté d'aller faire du tourisme. Mais il n'y a que des hommes qui sont atteints de cette maladie-là, alors qu'en fait, les femmes fugueuses, il en existe tout au long de l'histoire. Mais à ce moment-là, on ne s'intéresse pas du tout à la possibilité qu'il existe des femmes fugueuses, et la médecine clinique va s'intéresser uniquement aux hommes. Et la chose particulière dont je parle, c'est qu'au même moment, l'hystérie va devenir un diagnostic qu'on attribue presque exclusivement aux femmes en France, et on va observer les hystériques dans les hôpitaux, notamment à la Salpêtrière, au moyen de la photographie. Et à la Salpêtrière, à la fin des années 1870, au début des années 1880, des photographes travaillent dans le service des hystériques et vont créer une iconographie en photographiant les hystériques dans des moments de crise. Et qu'est-ce qu'on fait chez elles du désir d'évasion qui est tout autant existant que chez les hommes? Elles vont trouver d'autres moyens pour éprouver ce désir d'évasion qu'elles ont, et qui va, par exemple, notamment s'éprouver là, dans des crises d'hystérique. Elles sont enfermées comme aliénées dans ces hôpitaux dont elles ne peuvent pas sortir. Elles vont donner le spectacle de leur crise, et cette mise en spectacle de soi va être le moyen pour elles de s'évader de leurs conditions, d'aliénées, enfermées, réduites à leurs conditions de femmes dans des conditions matérielles terribles au sein de ces hôpitaux.
Mais donc si on ne peut pas s'évader vers l'extérieur, on s'évade vers l'intérieur.
Exactement, à l'intérieur de soi. Et c'est tout le paradoxe de ces photographies d'autoportraits que je montre. Elles sont à la fois à l'intérieur d'un cadre réduit, et en même temps, ces cadres-là qu'elles posent avec leur appareil photographique forment des lieux d'évasion, d'exploration.
Et une dernière question, alors c'est quoi les photographies de mer cachées?
Ah oui, alors
ça, il y a une
série de photographies de mer cachées. C'est une série, tout d'un coup, j'oublie les dates, je crois que c'est début du 20e.
Hein. Alors là, on a des dates 2013. Mais je ne sais pas ce que c'est.
Oui, alors je crois que ce sont des... Tout d'un coup, j'ai un trou de mémoire sur les dates. Ça date de la fin du 19e, début du 20e, où il y a eu un essor des photographies de studio et des photographies d'identité, hein, qu'on connaît bien. Aller se faire photographier pour avoir son portrait dans un cadre à la maison, c'était un trait de distinction bourgeois. Et quand les enfants naissaient, quand ils étaient petits, on allait aussi au studio du photographe pour photographier les enfants. Et comme les temps de pause étaient très longs, il fallait réussir à maintenir une certaine immobilité des enfants, ce qui était une chose difficile à obtenir. Et on faisait en sorte que les mères tiennent leur nourrisson ou leur bébé pendant la prise de vue, avec cette chose très effrayante, c'est que puisqu'il n'était pas question de faire un portrait mère-enfant, mais vraiment un portrait d'enfant, on met les mères sous des draps pour qu'elles soient invisibles dans le décor. En réalité, ça crée des portraits horrifiques où on voit un enfant tenu par une sorte de fantôme, hein, sous un drap noir, avec ses femmes en arrière-plan. Et je parle de la manière dont c'est extrêmement significatif et représentatif de la condition des femmes.
On invisibilise les femmes.
Invisibles en arrière-plan, ouais. Et en même temps extrêmement visibles, et qui hantent l'image comme des figures de fantômes.
Absolument, oui. Mmh. Donc nous avons parlé du livre de Marion Gréber, « Traverser l'invisible », paru à l'Atelier Contemporain. Merci et à la semaine prochaine.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.